Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue à Panorama économique sur Radio Capi. C'est la rétrospective de toute l'actualité économique de la semaine. Daniel Tambizoni est devant le micro, héritier Sidiakala à la prise de son. Je vous donne les principaux titres de cette édition. La République démocratique du Congo est classée 46e pays sur 54 avec un score global de 35,8 points sur 100. C'est un score amélioré de plus de 2 points au cours des 10 dernières années. Dans la sous-catégorie sécurité personnelle, elle a perdu 10,4 points. C'est ce qu'on pouvait lire dans le dernier rapport publié par la Fondation Mo Ibrahim, c'était lundi. Après une accalmie observée le week-end dernier, la surchauffe a regagné du terrain sur le marché de change. La semaine a connu un pic dans le taux de change de 1200 francs congolais, son niveau d'avant la vente par la Banque centrale du Congo de 50 millions de dollars aux banques commerciales. Et nous allons revenir sur l'actualité des routes à Bunia, à Goma et à Matadi. Dans le Congo central, nous apprenons que la route Matadi-Boma est en réhabilitation à Goma et Bunia. Nous parlerons également de l'état de route, la dégradation très avancée des routes, surtout dans le Nord Kivu. Voilà pour le titre, messieurs, dames. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue dans cette émission.
Panorama économique, le dossier.
Nous avons suivi toute cette semaine l'évolution du marché de change à Kinshasa. Le vendredi de la semaine dernière déjà, la Banque centrale du Congo avait vendu 50 millions de dollars américains aux banques commerciales. Cette intervention a favorisé une petite accalmie observée tout le week-end et le début de la semaine en cours, mais cette accalmie a vite volé en éclats lorsque le taux de change a repris sa course vers la hausse jusqu'à atteindre son niveau d'avant l'intervention de la Banque centrale du Congo, c'est-à-dire 1200 francs congolais pour 1 dollar américain. La semaine a enregistré plusieurs taux et cela selon l'endroit où l'on se trouve, entre 1100 et 1180 francs congolais à la cité, tandis qu'au centre-ville, le marché a clôturé cette semaine avec le pic de 1200 francs congolais pour 1 dollar. Cette instabilité du taux de change ne laisse pas les Kinois indifférents. Pour les ménages, cette situation augmente le niveau des dépenses quotidiennes et pour les cambistes, l'instabilité du taux de change flottant leur fait perdre beaucoup d'argent. Je vous propose d'écouter quelques Kinois qui se sont exprimés cette semaine au micro de la
et dérangera ma case tant que cambiste tant au dollar et mataka to bang la en haut puisque tout mon aka batonio surtout bah quoi si ma camon la bangue pas la bisou mais ils allant en bisouté mais pour son badolan les a passé puisque batouba auto perdre bambon mon amour de moussa zumba on a bien voté comme on a tout mon gros bouépo à coca pour récupérer ma perte sans les mêmes pas la bisou belé
le fait son en pleur les ambongo ya congoté les ambongo à papaye pourquoi pas te pèse à valeur toujours n'a bon la bisou et non la dollar comme mataka. Pour quitter Kitaka, je leur repère ça. Un village n'a pas tout le monde, ça va et surtout les gens sont là pour qu'on voit comment un dollar. N'a pas de dollar, n'a pas de dollar, n'a pas de dollar, n'a pas de dollar, n'a pas de dollar. Donc, toujours
bon, moi je trouve que par rapport au loyer, ça n'a pas vraiment d'impact parce que la plupart des gens payent leur loyer en dollars. Et je pourrais dire par rapport aux francs congolais, si oui, la majorité des gens touchent en dollars. Mais par rapport au ménage, là ça se sent vraiment parce que la plupart d'arrêt alimentaire, ça se vend en francs congolais. Et ça a beaucoup d'impact.
Sincèrement, moi, je trouve que cela nous impacte réellement. Parce que si nous allons même dans le supermarché, le prix des articles ont essayé d'augmenter. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'huile. Auparavant, on l'achetait à 8 400. Mais actuellement, c'était avant-hier, je l'ai acheté à 10 440.
Nadine Foula avait également posé la question au stratège Alki Tengue pour avoir son point de vue sur cette surchauffe sur le marché d'échange. Alki Tengue répond en ces termes.
Lorsque vous faites le tour de la ville de Kinshasa, vous avez plusieurs taux différents en fonction de où vous êtes exactement. Deuxième chose, lorsque vous faites le tour du pays et vous prenez les différentes villes, vous allez vous rendre compte que le taux est tout aussi différent. En fait, c'est l'image de cette économie qui est malheureusement dans l'informel en grande partie. Et lorsque vous prenez la monnaie, vous la laissez dans l'informel, vous subissez les coûts. En fait, pourquoi aujourd'hui? Simplement parce que, bien entendu, il y a une faiblesse de l'économie congolaise liée à la baisse des matières premières et aux autres facteurs assez simples comme notre faible capacité à mobiliser les ressources internes. Deuxième chose, et cela est lié aux chocs externes, nous avons à notre porte l'oufou. qui nous fourrent tout ce qu'ils veulent nous vendre ici, des produits qui viennent d'Angola, en grande partie le ciment et d'autres, et qui pompent de manière tout à fait sérieuse les billets de dollars qui sont sur la ville de Kinshasa. Et ça, personne n'en parle. C'est une hypocrisie qu'on ne peut pas tenir longtemps. Il est important qu'on mette l'ordre à Lufu, parce que Lufu aujourd'hui influence la manière dont l'argent est siphonné ici. Tout le monde sait très bien que l'Angola est en sérieuse difficulté depuis la baisse du taux des produits pétroliers. Et donc, d'une certaine manière, ils recherchent des ressources ailleurs. Et bien entendu, nous sommes la première porte sur laquelle ils essaient de frapper.
Mmh. Et certaines parlent de la situation politique.
Oui, bien sûr, l'impact de la situation politique peut être considéré, mais je peux vous garantir que c'est très relatif. La vérité, c'est que l'économie est très affaiblie, et c'est ça le problème. Et notre économie est très affaiblie pour deux bonnes raisons. La première, c'est que nos ressources traditionnelles ne viennent plus aussi bien qu'on le voulait. La deuxième, c'est que, bien entendu, avec les guerres que nous avons, une partie de nos ressources est attirée pour essayer de stabiliser le pays. Et la troisième des choses, c'est que notre offre intérieure est très faible. Et c'est quelque chose qu'il faut être en mesure de regarder de manière tout à fait sérieuse. Et ça, ça nous donne des obligations de résolution d'abord urgente pour les questions fondamentales, et c'est de ça que je parlais tout à l'heure en parlant de Lufu, mais aussi être en mesure de donner des solutions durables à moyen et à long terme.
La BCC a 3 reprises injecté des dollars, mais ça n'a pas vraiment donné...
La BCC n'en a pas assez, madame. Elle n'en a pas assez pour être en mesure de jouer avec l'arme monétaire. Les questions qu'il faut résoudre sont structurelles, elles sont dans l'économie. Et il est important de se rendre compte qu'en même temps qu'on injecte un peu d'argent pour calmer un petit peu la situation, il faut donner des solutions réelles. Il faut pousser au vrai problème.
Lesquelles?
D'abord, cette affaire de Lufu, qui est une urgence, parce que ça nous touche de manière tout à fait directe. Deuxième, c'est un petit peu favoriser l'économie domestique. Nous ne pouvons pas continuer à importer tout ce que nous importons et espérer avoir la possibilité d'avoir une économie stable. Nous importons jusqu'au cure-dent, nous importons toutes nos nourritures, et bien entendu, chaque fois que l'économie externe tousse, nous devons tousser. Donc il est important que nous soyons en mesure d'établir ici une économie domestique solide.
Lundi 3 octobre et depuis Londres, la Fondation Mo Ibrahim a publié son rapport 2016 sur l'indice de la gouvernance en Afrique. Ce rapport est intitulé « Le progrès de la gouvernance en Afrique au cours des 10 dernières années est freiné par la détérioration enregistrée en matière de sécurité et d'état de droit. » L'étude signale que près de 2/3 des citoyens africains vivent dans un pays où la sécurité et l'état de droit se sont dégradés au cours des 10 dernières années. François Kadima a lu pour nous ce rapport et nous en donne le condensé.
L'analyse complète de l'état de la gouvernance en Afrique réalisée et présentée par la Fondation Mo Ibrahim a pris en compte la perception des citoyens africains sur la gouvernance de leur propre pays au cours de 10 dernières années, soit de 2005 à 2015. De manière générale, indique l'indice Mo Ibrahim, la gouvernance globale sur les continents a progressé en moyenne d'un point, donc pour 37 pays correspondant à 70% de la population du continent ayant enregistré une amélioration. Cette tendance générale est essentiellement tirée par la progression marquée dans les catégories développement humain, participation et droits de l'homme. La catégorie développement économique durable a également enregistré une amélioration, mais à un rythme plus lent. À l'occasion, le président de la Fondation a déclaré, et je cite, « La détérioration observée en matière de sécurité et d'état de droit est le plus grand défi auquel les continents africains est aujourd'hui confronté. Une gouvernance solide et un leadership avisé sont l'essentiel pour pouvoir élever ce défi, maintenir les progrès récemment accomplis et confirmer les potentiels considérables du continent. » Fin de citation. L'indice classe la RDC 46e sur 54 pays avec un score global de 35,8 sur 100. Ce score indique le rapport s'est amélioré de plus 2,7 points au cours de 10 dernières années. Aussi, la RDC a vu son score diminuer de moins 10,4 points depuis 2006 dans la sous-catégorie sécurité personnelle.
Toujours lundi, nous avions parlé de l'ouverture samedi dernier à Kinshasa au Palais du Peuple de la session ordinaire du Conseil économique et social. À cette occasion, le président de cette institution avait qualifié de médiocre et précaire la situation économique et sociale des Congolais. Dans une interview avec Radio Okapi, son rapporteur a plaidé pour la nécessité de prendre en compte le contenu des documents élaborés par le Conseil économique et social lors de la dernière session. On écoute Richard Ngoubsim au micro de Michel Kifinangoy.
Nous avons 4 documents d'autosaisine qui se rapporte 1 à la situation de la baisse de la qualité de l'enseignement. 2, au problème du déficit de l'énergie électrique. 3, au problème des aires protégées qui sont menacées à l'est, comme vous le savez. Et enfin, le document sur le diagnostic général de la situation économique et sociale du pays, qui devraient tous être publiés, et très prochainement, je pense, qu'on pourra vous distribuer ces autosaisines. Le président a ensuite rappelé la situation morose sur le plan économique en regrettant les actes de pillage qui se sont passés, comme vous le savez, le 19 et le 20 de ce mois, le mois passé, le mois de septembre, en menant tout cela sur le compte de ce qui nous régresse, de ce qui nous recule, parce que à ces pillages, il faut compter sur ceux des années antérieures. 20 ans plus tard, comme vous le savez, en 91 et en 93, nous avons connu les mêmes pillages et les effets de ces pillages sont encore là, et voilà qu'on vient en ajouter d'autres. Ce qui fait que le pays ne fait que sombrer sur ce plan de l'économie, parce que lorsqu'on détruit, on détruit des infrastructures économiques et même sociales, c'est un recul formidable. Vous savez, comme je viens de le dire, il y a 20 ans, les effets sont encore là. Et si nous en ajoutons les événements qui viennent de se passer il y a quelques semaines, je vous assure que ça ne peut pas plaire ni à la population, ni aux autorités qui nous dirigent.
Et le dernier sujet dans notre dossier de la semaine est consacré aux routes. D'abord, nous appelons Guy Roger Nyampala depuis Matadi. Guy Roger qui nous parlait mardi des travaux de réhabilitation de la route Matadi-Boma. Les travaux avancent bon train et à la grande satisfaction des opérateurs économiques du Congo central. Cette route relie les deux grandes villes portuaires et par elle passent des milliers de camions conteneurs par mois. C'est le gouvernement central qui a financé les travaux de réhabilitation de cette route à hauteur de 80 millions de dollars américains. Guy Roger Nyampala nous en dit plus.
C'est une route de près de 120 km sur la nationale numéro 1, axe Matadi-Boma. Aujourd'hui, les travaux de sa réhabilitation accélèrent et il n'y a presque plus des endroits difficilement accessibles comme auparavant. Au lieu de 3 heures, les voitures taxi font 1h50 pour atteindre les deux bouts. Les camions poids lourds font moins de 3 heures de route. Une réhabilitation qui se fait à la grande satisfaction des opérateurs économiques qui gagnent aujourd'hui en heures par rapport à l'écoulement de leurs marchandises qui proviennent de la province angolaise du Cabinda, de la cité côtière de Moanda et du port de Boma. Les commerçants de la ville de Boma demandent à l'entreprise qui exécute les travaux de les accélérer pour qu'à la fin de cette année, que le trafic des marchandises s'améliore encore plus, car il ne s'agit pas, affirme un trafiquant de la cité de Kinzavute, d'aller prendre les marchandises provenant du port pour les écouler vers les grands centres, mais aussi récupérer les produits agricoles. C'est l'entreprise Grexet qui réhabilite cette route. Le financement est du gouvernement central à hauteur de 80 millions de dollars. Il s'agit des fonds provenant du péage sur la nationale numéro 1. La fin des travaux est fixée pour début 2017, selon un expert de l'entreprise Grexet. Matadi, Guy Roger Nyampala, École Économie.
Merci Guy Roger Nyampala et nous nous rendons à Bunia et nous restons sur les routes pour parler cette fois-ci de la réhabilitation de la route Bunia-Mahagi. La société chinoise Zhengwei a conclu un contrat de location des machines de la Congolaise Engineering Innovationé pour amorcer les travaux de bouchage des grands bourbiers sur l'axe Bunia-Mahagi long de 175 km. C'est le vice-gouverneur de province qui assure l'intérim de son titulaire qui a annoncé lundi cette information à Bunia. Les clauses de cet accord et la date prévue pour le démarrage des travaux, c'est ce que nous dit Pacifique Keta qui répondait ainsi au micro de Delvin Waïsala.
La route ici, la RN27, la société chinoise avait gagné le marché. Par la suite, ils devaient se déployer pour commencer le travail. Le travaux ne devait commencer proprement dit, d'après leur chronogramme, c'est à partir du mois de novembre. La société chinoise, bien qu'elle n'était pas forcée, nous leur avons fait voir comment est-ce qu'il était important qu'ils interviennent un peu pour cette route. Puisque maintenant, ils sont à un stade de déploiement. Leurs matériels sont en route. Mais maintenant, il était question qu'on loue le matériel de l'office de route. Mais l'office de route a présenté une facture salée que les Chinois n'ont pas pu se retrouver. Et au niveau du gouvernement provincial, nous devions faire un effort. Au niveau de que l'office de route, il devait faire un effort et les Chinois devaient faire un effort. Après le refus de l'office de route, nous étions obligés d'entamer une autre série de réunions. Mais maintenant, avec l'entreprise Engineering Innovazione, qui a pu accepter de louer maintenant, à louer les machines à la société chinoise, et c'était une façon aussi de leur contribution. Nous avons pu encore rapprocher Foner, qui nous a promis aussi sa participation.
L'entreprise IEI a demandé combien ?
On est parti sur la base des négociations que nous avions fait d'abord avec l'office de route. Parce que avec l'office de route, ils ont présenté une facture qui est au plus de 100 000 dollars pour essayer de travailler sur les bourbiers. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'entreprise chinoise avait proposé par machine et par jour 100 dollars en plus du carburant. Il y a la première enveloppe pour la location de machines, 19 000 dollars. Par la suite, avec le carburant et tout le reste, tous les travaux, ça allait consommer pratiquement autour de 200 000 dollars à peu près. On a essayé d'abord de proposer ces marchés-là à IEI. Après intenses négociations, ils ont pu se plier pratiquement à l'offre que nous donnions. Et nous, on va faire un petit effort au niveau du gouvernement provincial. Les Chinois qui vont faire un petit effort. Foner qui s'est annoncé aussi qui va faire un petit effort.
Et quelles sont les différentes machines qu'il va mettre à location, va donner aux Chinois?
Donc il y a les compacteurs, les porte-chars, l'excavatrice, il y a des bennes, il y a le compacteur aussi. 6 à 7 machines à peu près que l'entreprise IEI est prête à remettre à la disposition de l'entreprise chinoise, puisque les travaux seront dirigés par les ingénieurs chinois qui vont faire selon les normes et l'art leur travail de route. Ce qu'on va faire, c'est attaquer le bourbier.
Et la durée des travaux?
Comme c'est un travail ponctuel, ça va prendre un mois en attendant que les machines chinoises arrivent.
Selon les informations à votre possession, quels sont un peu les endroits qui nécessitent une intervention d'urgence pour le moment sur cet axe routier?
Il y a de gros bourbiers au niveau de l'OPA, il y a de gros bourbiers au niveau des Gina, Pimo. Quand vous allez un peu plus loin, vous avez au niveau des Ngoté et puis vous avez au niveau des Pabong, donc entre Goli et la douane. Mais de ce côté-là, on est en train de trouver une autre solution puisque les machines qui vont sortir d'ici ne pourraient pas aider à résoudre le problème qui se pose maintenant du côté nord, du côté de Mahagui. Alors, il y a encore une série, il y a encore des négociations. Il y a des partenaires qui sont en train de faire venir des machines. Nous sommes en négociation avec eux. Si demain, après-demain, on termine, comme ça, on peut attaquer la partie Goli jusqu'à la douane. Et puis, par la suite, avancer jusqu'à Ngoté.
Et les travaux démarquent?
Si tout va bien, le mardi, déjà, les machines montent. Avec qui sont transportés par les porte-chars. Et ça va monter sur l'OPA. Et c'est à partir de l'OPA qu'on va commencer à attaquer déjà les premiers bourbiers qui sont là, en passant par Higa Barrière, puisque au niveau des Higa Barrière aussi, il y a encore quelques petits problèmes.
D'une province à une autre, rendons-nous à présent dans le Nord Kivu pour parler de cette dégradation très avancée de plusieurs axes routiers dans le territoire de Rutshuru. Il s'agit des axes Burai-Bunagana, Kiwanja-Ishasha et Kiwanja-Kanyabanyonga, pour ne citer que ceux-ci. C'est l'administrateur Mukanya qui déplore cette dégradation. Ces routes sont d'une importance économique capitale pour son entité et pour Goma, chef-lieu de la province. Il craint en effet les conséquences économiques néfastes qui pourraient en découler et plaide pour l'intervention de l'autorité provinciale. L'Office des routes, qui a la charge d'entretenir ces routes, a suspendu son contrat avec l'association des attributaires de cantonnage manuel sur toute l'étendue de la République. Il évoque des problèmes financiers. Suivez plutôt ce dossier complet réalisé pour nous mercredi par Denise Lukeso.
En territoire de Rutshuru, l'administrateur parle des accès Burai-Bunagana, Kiwanja-Ishasha et Kiwanja-Grand Nord pour ne citer que ceci. Selon Justin Mukanya, ces routes sont d'une importance économique capitale pour le territoire et pour Goma, chef-lieu de la province. Pour l'administrateur Mukanya, si rien n'est fait dans l'immédiat, c'est l'économie du territoire qui sera affectée et par ricochet, l'économie de la province aussi sera touché. Ici, il parle des conséquences économiques qui peuvent découler de cette dégradation et plaide pour l'intervention de l'autorité provinciale.
Je peux vous dire, ce jour, tous les axes routiers sont sensiblement dégradés. Et donc, nous sommes en difficulté, les opérateurs économiques ne savent pas où mettre la tête. Alors, ici, nous en appelons très franchement et sincèrement à la bonne compréhension de l'autorité provinciale pour qu'elle nous vienne en aide. Puisque si rien n'est fait dans les jours qui viennent, franchement, il n'y aura plus de route en tout cas de route de même ailleurs. Et les produits agricoles qui sont en ce moment en train d'être évacués vers Goma ne pourront pas l'être et ça va être la catastrophe, madame. L'activité économique sera paralysée, ça c'est la première des choses. Même les véhicules qui viennent de l'Ouganda en transitant par le poste frontalier de Bunagana, pratiquement il n'y aura pas de circulation et l'économie du territoire sera paralysée et même l'économie de la ville de Goma sera entamée, ça c'est la première conséquence. Les autorités économiques menacent aussi d'arrêter tout mouvement. Ça va être difficile. Nous ne pouvons pas, très sincèrement, envisager ce que va devenir le territoire du retour d'ici une ou deux semaines si une solution exemple n'est pas trouvée.
Le territoire de Masisi n'est pas épargné non plus avec des fortes pluies qui s'abattent dans la zone ces derniers jours. Les transporteurs ainsi que les producteurs éprouvent d'énormes difficultés en cette période de récolte pour acheminer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. C'est comme le dit ici Gervais Kanane, président de la coordination des transporteurs de Masisi.
Moi, ces eaux pluvieuses, barabara zinakuwa complètement foutues. Manake zimeharibika kabisa. Benye banatoka banatuambia bamepata problème sérieux kutoka Masisi kufika hapa Goma na mashimo imekuwa mingi mingi sana. C'est vrai wamejikaza wanafika hapa difficilement mais semaine prochaine déjà itashindikana donc accès itakuwa impossible juu hakuna tena kazi ya cantonnage.
L'office des routes qui a la charge d'entretien des routes déclare avoir reçu l'ordre de Kinshasa de suspendre momentanément les contrats des travaux de cantonnage manuel à travers toute la République. Le directeur provincial explique que cette suspension est liée au paiement de cantonniers. Tout en jetant la balle à son bailleur traditionnel, les Fonaires, l'office des routes déclare chercher d'abord à apurer des dettes de 7 mois pour les routes provinciales et de 5 mois pour les nationales. Suivez ces explications du directeur provincial de l'Office des routes Jean-Pierre Kofi Napangi.
Si on parvenait à liquider ces dettes, certainement les cantonniers vont reprendre leur travail. Nous recevons de l'argent du FONER et nous payons les cantonniers. Tant qu'on ne nous a pas libéré l'argent, nous on ne peut pas payer. C'est pas nous qui avions accumulé ça. L'argent vient de quelque part et on nous donne pour payer. Si la route s'abîme, c'est pas de notre faute, c'est la faute de celui qui nous a demandé de suspendre les travaux.
Le directeur provincial du FONER est resté injoignable ce mercredi. Pendant ce temps, les usagers des routes ainsi que les attributeurs doivent prendre leur mal en patience. Goma, Denise Lukeso pour Écho d'économie.
Panorama économique. Chaque samedi à 12h30, Radio Okapi vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie de marché, les développements des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique.
Autre information de la semaine, le Premier ministre Matata Ponyo a inauguré mardi à Kisangani 4 locomotives neuves de la SNCC. Cette inauguration a relancé en même temps le trafic ferroviaire sur le tronçon Kisangani-Ubundu, long de 125 km. Les locomotives ont la capacité de tracter une charge maximale de plus d'un million de tonnes de marchandises par an. C'est ce que nous disait Dorcas Kankou dans ce reportage.
Pour le ministre congolais de transport, cette acquisition a été complètement financée et soldée par le gouvernement. La dernière dotation en locomotives de cette taxe remonte à 1974. Le ministre congolais de transport, Justin Kalumba, revient sur les capacités de ces locomotives.
Chaque locomotive détient donc la capacité théorique de tracter 900 tonnes de marchandises par jour, soit 3600 tonnes par jour pour les 4 locomotives et une charge maximale théorique de 1 314 000 tonnes de marchandises par an. Avec une capacité aussi robuste de traction apportée par ces 4 locomotives sur cet axe Kisangani-Ubundu, l'opinion comprendra facilement que le gouvernement ambitionne de désenclaver une bonne fois pour toutes cette partie de la République.
Cette région est riche en produits agricoles, forestiers et minéraux. Son désenclavement a pour objectif la génération de la croissance économique et la création de richesses, a martelé le ministre de Transport. Kisangani, Dorcas Kankou, Radio Okapi.
Les commissions PAJ et ECOFIN de l'Assemblée nationale se sont réunies depuis mercredi pour évaluer l'exécution des recommandations de l'enquête parlementaire. L'enquête avait fait des recommandations au gouvernement et au Parlement. Cependant, ni le gouvernement ni le Parlement ne s'est exécuté depuis. Ces deux commissions veulent en avoir le cœur net. À cette occasion, Éco d'économie vous avait proposé le rappel de faits au sujet des 140 millions de dollars américains du FPI débloqué entre 2008 et 2014, mais jamais remboursé par les bénéficiaires. Nadine Foulantimba revient sur les principales anomalies autrefois relevées par l'enquête parlementaire.
Parmi les griefs retenus contre le staff dirigeant du FPI, l'enquête parlementaire avait révélé que 70% de projets financés par le FPI entre 2008 et 2014 n'ont pas été réalisés et que pour la plupart, c'était des projets fictifs. Selon les parlementaires, il s'agissait tout simplement d'un détournement de fonds du FPI par des promoteurs de projets. Ces rapports avaient également noté une certaine complaisance du comité de gestion du FPI dans le choix des promoteurs de projets. Les rapports indiquaient que l'ADG du FPI, Constantin Mbengele, avait privilégié dans l'octroi des crédits les politiques au détriment des véritables des entrepreneurs. À ces griefs s'ajoutait la prise illégale d'intérêt due à l'achat d'un vieil immeuble abritant les services des 7 établissements publics. Autre irrégularité, les subventions accordées pour les recherches scientifiques appliquées aux innovations qui étaient exécutées en des montants exorbitants alors que les bénéficiaires en touchaient moins. Selon toujours ces documents, 3 membres du gouvernement, un député et un cadre de la Commission électorale nationale indépendante détiennent à eux seuls près de 3 millions de dollars. Ces personnalités n'ont encore rien remboursé. Au nombre des recommandations formulées, la commission parlementaire avait plaidé pour la dépolitisation et la rationalisation des conditions d'octroi des crédits et des subventions. Elle avait également recommandé la poursuite en justice des créanciers insolvables et les bénéficiaires des subventions non justifiées. Pour les parlementaires enquêteurs, il faut recourir à un recouvrement forcé des impayés du portefeuille. C'est ainsi qu'au retour de leurs vacances parlementaires et à l'approche de la reddition des comptes attendue dans le prochain jour, les députés ont voulu remettre ce dossier sur la table des discussions. Les commissions ECOFIN et PAJ de l'Assemblée nationale se sont réunies aujourd'hui à huis clos pour mettre la lumière sur la suite de ces dossiers. Nous y reviendrons.
Et nous terminons la semaine avec ce nouveau-né dans l'espace médiatique de la RDC, Easy TV. Il s'agit d'un programme de télévision numérique offert grâce au partenariat entre Canal+ et la télévision Antenna. Le mariage entre ces deux a donné naissance à la société Télénum qui offre ce produit aux habitants de Kinshasa 3 mois après s'être installé à Lubumbashi. Easy TV est lancé depuis jeudi à Kinshasa et je vous propose de suivre cette interview que nous a accordé le directeur général de Télénum juste après le lancement ici à Kinshasa, Madame Hélène Miensue-Kama.
Notre objectif, effectivement, de couvrir toutes les grandes villes de Kinshasa. C'était stratégique de commencer par Lubumbashi, mais c'est aussi pour des raisons d'obtention de fréquences. Vous savez que pour la télévision numérique terrestre, la technologie est différente, c'est pas du satellite, donc il faut sécuriser les fréquences. Donc on a plusieurs villes dans le collimateur, dans notre plan, mais évidemment la priorité d'une ville par rapport à une autre dépend de la vitesse à laquelle on peut sécuriser les fréquences pour constituer nos bouquets.
Et c'est quoi Easy TV pour ceux qui nous écoutent maintenant?
Alors Easy TV, c'est un bouquet de 30 chaînes qui a vocation à adresser les besoins de toute la famille. Il y a 25 chaînes qui sont internationales, il y en a 5 qui sont locales. On veut que toute la famille se retrouve.
Et parlons maintenant de l'entreprise elle-même. C'est un fruit né de l'union entre Canal Sat et Antenne A. D'où est venue cette idée d'entreprendre sous cette forme-là?
Alors, le groupe Canal+ a une stratégie depuis 2010, a modifié sa stratégie et on comprend qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, contrairement à ce qui était fait avant où c'était des produits français qui étaient exportés et qui s'adressaient aux expatriés, aujourd'hui, le groupe Canal+ veut faire des contenus, veut de plus en plus adresser le public africain lui-même dans ce qu'il veut, dans ce qu'il désire. Et c'est la raison pour laquelle on est entré dans cette réflexion, on s'est rapproché d'un opérateur local qui est Antenna pour qu'ensemble on réfléchisse à qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'il est possible de faire. La technologie de la télévision numérique terrestre nous permet effectivement de créer des bouquets qui soient localisés Et ce n'est qu'un début. Vous verrez qu'après, nos contenus vont de plus en plus s'africaniser et répondre aux besoins de nos abonnés.
Avec Canal+, vous donnez naissance à cette nouvelle entreprise. Mais vous savez que le bouquet Canal+, ils sont encore chers pour une frange de la population congolaise. Avec Easy TV, quelle sera la différence par rapport au prix justement?
Je ne dirais pas que les bouquets Canal+ sont chers. Je dirais qu'ils ne sont pas abordables pour une certaine tranche de la population parce que les revenus sont plus modestes. Et c'est cette population que nous adressons maintenant avec ce bouquet de Easy TV où l'abonnement mensuel est à 8000 francs, où les frais d'accès aux services qui sont payés qu'une fois au démarrage sont à 15 000 francs. On offre un mois gratuit, le premier mois il est offert. Donc je crois qu'avec ce bouquet qui sera de toute façon enrichi dans l'avenir, avec ce bouquet on rend accessible notre offre.
Et c'est sur ces mots de Madame Miasui Kama que nous allons boucler Panorama économique de cette semaine. Cette émission, je vous convie de la retrouver sur www.radioocapi.net. Eric Sidekal a été à la prise de son devant ce micro. Daniel Tambizoni, je vous souhaite de passer une agréable fin de semaine en compagnie de Radio Okapi.